FM 93. La radio du sport à Québec. Entrevues, analyses, faits marquants. Le monde du sport passé en revue. Voici l'avant-match avec Dan Pou. L'avant-match, c'est la référence sportive à Québec.
Quand on a vu les Blues perdre le premier match à San Jose, on s'est dit « Ah non, les Blues, on les aimait, Colin. Ça va mal pour eux. » Pour une autre fois dans les séries 2019, l'équipe qui avait perdu est revenue et a gagné le match. C'est fascinant, les séries, cette année.
Bortuzzo into the high slot for Bozak. Drops it off, Edmondson. Now to Bortuzzo. Backhand shot. He scores! Robert Bortuzzo gives the Blues a 3-2 lead with his first career postseason goal. Blues win it 4-2, series tied. One game apiece in the Western Conference Final. Robert Bortuzzo with the game winner after a pair from Couture.
Vous écoutez l'avant-match au FM 93 avec Dan Poulin.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2102. J'espère que vous allez bien. C'est encore arrivé hier. À chaque fois qu'on pense qu'une équipe est dans le trouble, elle réussit à revenir pour l'emporter. Les Blues de Saint-Louis, ça me fait penser aux Bruins de Boston. Je fais un parallèle entre les deux équipes en série cette année. Beaucoup de caractère, un gardien dominant, deux, trois bons joueurs, mais un concept d'équipe. J'ai l'impression qu'à Boston comme à Saint-Louis, c'est le logo qui prime. Et hier, les Blues avaient pris les devants 2-0. Les Sharks sont revenus pour faire 2-2 grâce à Logan Couture. Évidemment, il fallait bien en parler hier dans l'émission avec Louis-Jean. C'est le meilleur marqueur des séries, rendu à 19 points. Et là, quand Bennington a donné le deuxième but à Couture entre les jambières, là, on a une petite crainte. On s'est dit « Ah ouais, Colin. Bennington, 25 ans, première année en série, ils ont perdu le premier match. Ils vont perdre encore ce soir. Colin vient de donner deux buts, pas en tout. Les Blues ont gagné 4-2. C'est la beauté des séries de cette année. C'est pour ça que c'est aussi difficile à prédire. À chaque fois qu'on pense qu'une équipe est dans le trouble ou va être dans le trouble, cette équipe-là rebondit. Sincèrement, cette série-là entre les Blues et les Sharks, évidemment, elle n'est pas super sexy, mais c'est une série beaucoup plus fun à suivre que celle entre les Blues et les Hurricanes. Et c'est très difficile, même aujourd'hui, une fois que les Blues ont gagné hier, on aurait tendance à penser qu'ils ont le fameux momentum. Pas en tout. Ça se peut très bien que les Sharks gagnent le prochain match à Saint-Louis. C'est ça la beauté des séries cette année. Dans la Ligue nationale de hockey. Parlant de Ligue nationale, Brendan Shannon a signé une prolongation de contrat de 6 ans aujourd'hui comme président des Leafs de Toronto. Les 6 prochaines années, l'arrivée de Brendan Shannon, je pense sincèrement, a donné une crédibilité à l'organisation des Leafs. Et les gens sont heureux de son travail. Aujourd'hui, on lui a consenti 6 autres années de contrat. Et juste avant d'aller parler avec François Paquette, je veux vous dire que les jeux sont faits dans le hockey junior. Prince Albert l'a emporté en prolongation au 7e match hier contre les Giants de Vancouver. Guelph s'était déjà réglé contre Ottawa. Ce sera donc Guelph, Prince Albert, Rouyn-Noranda et Halifax à la Coupe Memorial. Ça débute vendredi. Et déjà, on a appris que pour le match de la finale du 26 mai prochain, tous les billets avaient été vendus.
L'avant-match. François Paquette.
Salut François, comment vas-tu?
Ça va très bien, Dan, toi-même.
Oui, est-ce qu'il te restait dans le fond du locker ou du cabanon un équipement de gardien peut-être avec lequel tu avais gardé les buts dans ton jeune âge, dans la rue ou sur la patinoire extérieure? T'aurais pu donner ton nom ce soir et aller garder les buts avec les Hurricanes?
Il me restait des vieilles pads là, que la mousse sortait au fur et à mesure parce qu'on jouait trop dans la rue. Là.
Ouais.
À un moment donné, j'ai été obligé de les jeter, mais j'ai trouvé ça quand même drôle quand Rod Brind'Amour a comme hésité à ne voulait pas nommer le nom de son gardien. Et Bruce Cassidy a dit, ben nous autres, il n'y a pas de problème, ça va être tout correct. C'est assez clair que on est dans le siège du conducteur, on a un gardien numéro 1. Mais j'ai trouvé ça intriguant, Dan, parce que je me suis posé la question si les séries se terminaient aujourd'hui, je trouve que, tu sais, pour chacune des équipes, ou à peu près, il y a un nom qui ressort dans le sens où, tu sais, les Sharks, c'est Couture qui semble être le meilleur joueur, qui serait le récipiendaire du trophée Conn Smythe.
Ouais.
Je pense que c'est Jaden Schwartz avec les Blues, peut-être avec Bennington, ce sont les deux gars, mais moi, je trouve que Schwartz a marqué les gros buts. À Boston, c'est Tuukka Rask qui a été la grande vedette.
Ouais.
Puis là, tu arrives aux Hurricanes qui te dis, oups, ça t'a un peu, là, s'ils gagnaient la Coupe, c'est qui leur MVP, leur joueur par excellence?
Rod Brind'Amour.
Écoute, c'est exactement à quoi j'ai pensé. Tu sais, je me disais, je trouve que présentement, c'est lui le joueur par excellence. Évidemment, c'est le coach. Et ça me faisait penser un peu à il y a quelques années quand les Patriots avaient décidé qu'au Super Bowl, on voulait pas qu'on présente les joueurs un par un, on voulait se faire présenter en équipe. Puis je trouve que dans le cas des Hurricanes, c'est un peu la situation. C'est-à-dire que à chaque soir, tu sais, oui, il y a eu des Warren Fogle puis des Aho, ouais. Puis il y a tout le monde qui a eu son petit moment de gloire. Merasek puis même McElhinney quand il est venu en relève, mais il peut pas dire qu'il y a un joueur qui sort du lot. C'est un beau succès d'équipe, mais c'est un succès d'équipe qui pourrait prendre fin très rapidement si ne gagne pas le match 3. Là.
Pour le Conn Smythe, il y a seulement Patrick Roy qui l'a gagné 3 fois. Puis à l'époque où on était plus jeunes, toi et moi, en 87, Ron Hextall avait gagné le Conn Smythe dans une cause perdante. Et en 2003, Jean-Sébastien Giguère également l'a remporté dans une cause perdante. Est-ce que tu penses qu'on va vivre assez vieux pour revoir ça, un joueur ou un gardien qui va s'incliner en grande finale et qui va gagner le Conn Smythe?
Oui, moi je pense que oui, on va voir ça. Puis c'est sûr que de temps à autre, Dan, puis je pense que l'an passé est un bel exemple, les journalistes qui votent pour le trophée Conn Smythe parfois sont un peu vendus. Là, dans le sens que l'an passé, moi je pense que c'est Backstrom qui aurait dû gagner. On l'a donné à Ovechkin, c'est pas qu'il mettait, c'est pas comme s'il avait été invisible, il a été très bon. Mais moi, je pense qu'il y a des années où on se laisse un peu influencer par certains joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de succès en série.
Mais moi, c'était Kuznetsov. Tu vois, l'année passée, c'était pas si évident. Toi, t'avais Backstrom, moi, j'avais Kuznetsov.
Je suis certain qu'il y a des gens qui auraient choisi Oldby juste pour son arrêt dans le match numéro 2.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, mais tout ça, tu dis, il y a plusieurs candidats, mais...
Le temps versus Crosby, c'est, je me souviens pas si c'est 2016 ou 2017, mais moi, pour moi, c'était le temps, puis c'est Crosby qui l'avait gagné.
Aucun doute là-dessus, puis il y a eu, tu sais, il y a plusieurs années comme ça, puis
ouais.
Je pense que les cas que t'as nommés, là, de Hextall à la fin des années 80, Jean-Sébastien Giguère, je veux dire, c'était flagrant cette année-là, les Ducks ne se seraient jamais rendus en finale de la Coupe qu'ils avaient perdu contre les Devils. Je pense à la bataille des frères Niedermayer cette année-là.
Ouais.
Et, tu sais, il aurait jamais participé à la finale sans lui. Fait que je me disais, écoute, peut-être que si, par exemple, les Blues venaient qu'à battre les Sharks, puis affrontent en finale les Bruins de Boston, puis que, tu sais, les Bruins perdent en 7, mais que Rask donne vu dans ces matchs en finale, je pense que ça pourrait être un candidat parce que les chiffres sont impressionnants. Puis je pense pas que les Blondes se seraient rendus là sans lui.
Ouais.
Sincèrement, je suis surpris de dire ça parce que moi, je m'attendais en cours de route à ce qu'on voit Yaroslav Halak, tellement Rask a été so-so dans sa carrière dans les séries, mais il a vraiment répondu aux attentes. Mais c'est sûr que si San Jose gagne la Coupe ou tu sais va jusqu'au bout, je pense que Logan Couture est un choix facile. Logan Couture est en train de prouver qu'il est un des meilleurs joueurs de série des 10 dernières années. C'est un gars qui... Les équipes ont hésité un petit peu. Il jouait avec les 67 d'Ottawa. Il y a des gens qui ont un peu son coup de patin. Puis finalement, écoute, c'est un gars qui est très, 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 très bon sous pression puis dans les grandes occasions. Mais il n'y a aucun doute pour moi, Dan, que ça va arriver à nouveau. Des joueurs de l'équipe perdante qui vont remporter le trophée Conn Smythe. Mais il y a toujours plus de chances que ce soit un gardien de but dans ce genre de circonstances-là, parce que comme joueur, il faudrait être un gars qui ait 32 points
ouais,
en 22 matchs pour qu'il le mérite.
Ouais.
Mais sinon, ça va être quand même assez rare. Là.
Deux statistiques pour toi concernant Logan Couture, puis je veux les partager avec les auditeurs, parce que hier soir, c'était un de mes sujets dans mon émission, à quel point Logan Couture est sous-estimé, puis bang, dans une défaite de 4-2, il marque les deux buts, il est rendu à 19 points, meilleur marqueur depuis le début des séries. Depuis le début de les séries, depuis le début du printemps 2010, cette même année où Yaroslav Halak, t'en parlais tantôt, avait battu tour à tour Washington et Pittsburgh en 7 matchs, ben depuis le début des séries en 2010, le nombre de buts marqués en série, Ovechkin domine avec 50 et Logan Couture en a 47 au deuxième rang, François.
C'est incroyable, puis il a pas fini, là. Je veux dire, cette année, le compteur va continuer à monter.
Puis il est plus jeune qu'Ovechkin?
C'est ça, il vient juste d'avoir 30 ans dans le club de Logan Couture. Donc, il y a encore de très, très belles années devant lui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je vais t'avouer une chose, c'est que j'ai hâte de voir. Je ne sais pas si le résultat des séries de cette année va avoir un impact, mais c'est pas possible que les Sharks soient très différents l'an prochain.
Oui.
Pas nécessairement moins bons. Mais je veux dire, si pris, par exemple,
Compton, plus de Pavelski, plus de Carlson.
Je pense que le visage peut changer de cette organisation-là, mais ce qu'on voit de Meyer, ce qu'on voit de Hertel, ce qu'on voit de plusieurs jeunes joueurs qu'on a c'est très encourageant. Puis même à un certain point, Martin Jones a vraiment repris de l'aplomb par rapport au gars qu'on a vu en saison régulière qui a eu des hauts et des bas. Donc peut-être que c'est juste le leadership qui va changer pour cette équipe-là. Mais tu sais, moi, si je m'appelle le DG des Sharks, pas sûr que je suis prêt à donner 11 à 12 millions pour Carlson.
Non.
Même si son agent dit qu'il joue blessé. Je pense que je préférais peut-être signer tous mes jeunes joueurs à long terme plutôt que de ramener un gars comme Carlson. Puis écoute, la transaction, on verra dans 5 ou 10 ans comment les joueurs et les choix que les Sénateurs ont obtenus vont valoir à ce moment-là. Mais peut-être que si les Sharks ne donnent pas la coupe et ne ramènent pas Carlson, tandis que c'est une transaction qu'on va regretter, je pense mais on attendait certainement d'en avoir plus avec Carlson.
Mais Doug Wilson est un homme de hockey pour qui j'ai un énorme respect. Il est respecté dans la Ligue nationale également. Je pense qu'il va prendre la décision dans le cas de Carlson. Puis l'autre statistique concernant Logan Couture, c'est le nombre de points depuis le début du printemps 2016, donc la première des deux Coupes Stanley consécutives des Pingouins. Crosby a 68 points depuis le début du printemps 2016. Et au deuxième rang, Couture en a 64.
Ça va de bon sens. C'est impressionnant. Puis j'ai trouvé que, on dirait que cette année, c'est un peu son coming out. Il y avait eu des très bonnes séries en 2016 quand les Sharks avaient perdu en finale de la Coupe. Il avait remonté 30 points. Et je regardais les stats hier, justement, le voyais aller. Puis 30 points, il avait marqué 10 buts. Il est déjà rendu à 13 buts en 16 matchs. Puis on s'entend qu'il en a marqué quelques gros dans des occasions. Je regardais hier en désavantage numérique, c'est lui qui a remis son clou dans le match. Il crée l'égalité quelques minutes plus tard. Oui, ils ont perdu le match. Mais c'est pas juste de marquer des buts, mais c'est de les marquer au bon moment, de la façon dont il se comporte sur la patinoire. Puis même, je dirais, à un certain point, de la façon dont il s'est comporté pendant l'absence de Pavelski. C'était un peu lui qui était devenu le meneur de cette équipe-là.
Oui.
Vraiment, là, très impressionné. Puis, tu sais, si les Sharks se rendent jusqu'en finale, les chiffres que tu viens de donner vont continuer à grimper. C'est peut-être un gars qui va sortir pas mal plus tôt dans les pôles de série dans les prochaines années, en sachant que c'est un vrai bon gars de série.
Ouais. Ryan O'Reilly, il y a un an, jour pour jour, ou à peu près, François, Ryan O'Reilly faisait une déclaration fracassante et avouait avoir perdu son plaisir de jouer au hockey. S'il y a des gens à l'écoute de mon émission ce soir qui sont malheureux dans leur emploi puis qui se demandent ce qui va leur arriver dans un mois ou deux, mais sachez que ça change vite dans le hockey, ça change vite dans le sport, mais ça peut changer vite dans la vie de tous les jours. Il y a un an, il disait oh, on a une culture de perdant à Buffalo, puis ça me tente plus ben de jouer au hockey. Et actuellement, non seulement il est avec les Blues en finale de conférence, mais hier, il a brisé un record de tous les temps de la LNH. 7 matchs de suite sur la route avec au moins un point. Il partageait le record avec 4 autres joueurs, dont Wayne Gretzky et Bretta, l'aller jusqu'à hier. Mais là, il détient le record seul. Ça change vite, pareil.
Ah, c'est incroyable. Puis, je veux dire, moi, personnellement, je ne suis pas le plus grand fan de Ryan O'Reilly. Ce n'est pas un mauvais joueur de hockey, loin de là. Mais il y a quand même un salaire assez imposant. Puis, la transaction de l'an passé qu'il avait fait passer justement de Buffalo à Saint-Louis, je veux t'avouer que moi, j'aimais ce que les Sabres faisaient dans le sens où tu es en reconstruction. Dans la transaction, on avait obtenu oui, Berglund puis Zobotka, mais surtout Tage Thompson, qui est un très bon jeune joueur, en plus d'un choix de première et d'un choix de deuxième ronde pour Ryan O'Reilly. Je me disais, écoute, je trouvais que c'était quand même très cher payé pour les Blues dans les circonstances.
Okay.
Mais il a eu sa meilleure saison en carrière. Cette année, il a été superbe. Il a presque ramassé un point par match. Il a été très bon dans plusieurs phases du jeu, mis à part de ramasser des points. Puis je pense que ce que tu as mentionné, la motivation, je pense que les choses ont changé aussi. Le changement de marché, de passer dans une équipe gagnante. Le problème, c'est posé 2-3 questions dans les premiers mois de la saison des Blues. C'est moi le problème dans ce dossier-là. Mais il s'est replacé, l'équipe s'est replacée. Il est probablement non seulement plus heureux, mais pas mal plus intéressé à poursuivre sa carrière maintenant. Parce que Ryan O'Reilly, ça a été un bon joueur, sans être une super vedette. Sauf à rang, c'est les Flames qui lui avaient fait une offre hostile à un certain moment donné que l'Avalanche avait décidé d'égaler. Quand on l'a échangé à Buffalo, on avait, du côté des Sabres, on avait quand même donné Zadorov, Grigorenko, puis je pense qu'il avait JT Comfort aussi. Donc, tu sais, on avait payé le gros prix, puis on n'avait pas eu les résultats escomptés non plus dans son cas, parce que c'est un joueur qui t'en donne beaucoup plus que les statistiques, mais au prix qu'il paye, il faut que les statistiques soient là aussi. C'est un gars qu'il faut qu'il marque un 20-25 buts. C'est un gars qui est capable de récolter sauf erreur, cette année, c'est 77 points. Écoute, c'est vraiment un joueur qui peut avoir un impact très important, mais est-ce qu'il peut être, tu sais, ton leader, est-ce qu'il peut être ton attaquant numéro un, celui qui va mener le reste de l'équipe au, tu sais, ton centre numéro un? Ça dépend, je pense, de ton équipe, de la façon dont elle est construite. Mais vraiment, là, cette année, il est en train de prouver qu'il peut faire partie de la crème, puis qu'il peut être un très bon leader pour une équipe comme les Blues. Puis, sincèrement, Dan, j'ai adoré ce que les Blues ont fait hier. C'est pas facile d'aller gagner à San Jose, match numéro 2, après avoir joué une plate dans le match numéro 1, après avoir perdu l'avance 2-0 dans le match numéro 2. J'ai trouvé que les Blues ont démontré beaucoup, beaucoup de caractère dans leur victoire d'hier.
Absolument. François, avant de te laisser, j'ai une question pour toi. Puis c'est pas une question au piège, mais peut-être que tu vas trouver que c'est une drôle de question. Puis je sais même pas si on va pouvoir cibler une réponse définitive concernant le départ des Nordiques en 95. Sur la plateforme Podium de Radio-Canada, aujourd'hui, Carey Fraser parle du fameux but refusé à Alain Côté. Puis il dit que dans les années qui ont suivi, il est venu faire des matchs au Colisée, puis il a reçu des menaces. Il y a des gens qui l'attendaient dans le stationnement, puis il y a des gens qui lui en voulaient. Puis il dit la sécurité à ce moment-là au Colisée, c'était pas l'idéal, fait que ça a été plus tough. Mais ceci dit, est-ce que tu es capable de cibler, ou si je te posais la question, mettons, si Carey Fraser refuse pas ce but-là à Alain Côté, puis que les Nordiques éliminent en 87 le Canadien, as-tu l'impression que les Nordiques restent à Québec, ou c'était plus large que ça? Es-tu capable de cibler un moment important, peut-être l'élimination de 93 ou l'élimination de 95 même contre les Rangers avec cette drôle de décision d'Andy Van Hellemann, le vendredi saint peut-être, le but d'Alain Côté? T'es-tu déjà arrêté à ça?
Oui, jusqu'à un certain point, parce que je sais, j'ai déjà fait un peu la même analyse avec le départ des Expos. Il y a des gens qui vont dire que ce soit le Stade olympique, la grève de 94. Moi, j'ai toujours pensé que les Expos sont morts quand le premier ministre a dit non au financement d'un nouveau stade. C'est vraiment là que, tu sais, on est parti dans l'autre direction. Dans le cas des Nordiques, il y a une chose que tu as mentionnée qui était quand même intéressante, c'est entre autres l'élimination de la dernière année, 1995, contre les Rangers. C'est-à-dire que si les Nordiques, cette année-là, gagnent la série contre les Rangers, ils font un petit bout de chemin. Peut-être que les revenus sont différents, peut-être que l'attitude est différente. Ça, on le saura jamais. Mais pour moi, autant pour la décision de Carey Fraser, tu sais, que quelques décisions, des transactions, des mauvaises décisions de l'organisation, je pense qu'on arrive à peu près au même constat que les Expos, dans le sens où Marcel Aubé, à un certain moment donné, tu te rappelles, avait parlé d'un casino. Tu te rappelles de ça, à une certaine époque, le fameux casino pour à Québec pour financer un nouveau Colisée. Il y avait toutes sortes de projets. À partir du moment où on a tué dans l'œuf ce genre de projet-là, et surtout la construction d'un nouvel amphithéâtre, à cette époque-là, on est dans les années 90, je pense que c'était pas mal réglé à partir de ce moment-là. Tu sais, autant les performances sur la patinoire, on s'entend, les Nordiques en allaient dans la bonne direction, ils ont même gagné la coupe l'année d'après, mais je pense que c'est vraiment au niveau du nouveau Colisée, du fait que le gouvernement à l'époque était pas très enchanté à l'idée de soit d'un nouveau casino, de financer le nouveau projet. Je pense que c'est vraiment, vraiment là qu'on a trébuché et qu'on a dit non. Puis tu sais, on s'entend, Dan, les choses sont très différentes aujourd'hui. Des fois, quand tu as plusieurs propriétaires, beaucoup de gens avec qui tu dois gérer, on dirait que à cette époque-là, la décision était plus facile à prendre. Il y avait moins de monde impliqué. Puis le commissaire, en plus, à cette époque-là, venait d'arriver. Puis lui, je pense que ça lui faisait plaisir de sortir un club canadien pour l'envoyer aux États-Unis. Donc, tu sais, tout ça mis ensemble font en sorte que je pense que c'est vraiment à l'extérieur de la patinoire et le fait qu'il n'y ait pas eu de nouveau Colisée, beaucoup plus qu'une décision de Carey Fraser ou un but qui a été refusé au Nordique à l'époque.
OK, mais je te laisse là-dessus. Évidemment, tu réfléchiras à ça, mais et je veux que les auditeurs réfléchissent en même temps. En 82, Dale Hunter marque le but en prolongation au Forum. Les Nordiques éliminent le Canadien. En 85, Peter Stachny marque le but décisif. Les Nordiques éliminent le Canadien, dans les deux cas, à Montréal. S'il n'y a pas de Vendredi Saint, moi, je persiste à croire qu'au lieu de casser le nez de Peter Stachny, ben, les Nordiques battent le Canadien. Et là, c'est peut-être l'ancien partisan des Nordiques qui parle puis qui en met plus que le client en demande. Mais et ça, c'est en 84, le Vendredi Saint, puis le but d'Alain Côté est en 87. Imagine-toi qu'au cours d'une décennie, 4 années, les Nordiques éliminent le Canadien au Forum. Pense à ça 2 minutes, là.
Ouais, j'avoue, mais ton analyse du Vendredi Saint est très bonne aussi, là, parce que si on avait donné les bonnes punitions puis sorti les bonnes personnes, on n'aurait peut-être pas eu le même résultat. Mais c'est pour ça que je te dis, moi je pense plus aux années 90, okay. En cours de 95, puis même 93, évidemment, que si tu gagnes ces séries-là, puis que tu fais un petit bout de chemin, tu mets un peu plus d'argent dans les coffres, puis la folie devient plus grande aussi parce que tu fais un bon en série, je suis d'accord que ça aurait pu avoir une influence. Mais peut-être aussi que si les Nordiques avaient eu un petit peu plus de chance puis de gagner ces gros matchs-là à Montréal puis des décisions qui tournent de ton côté, les choses auraient pu être très différentes. Mais ce qui est fascinant, Dan, c'est qu'il y a, je dirais, 5 ans, 6 ans, je mentionnais toujours que moi, j'étais convaincu que les Nordiques revenaient dans la prochaine expansion avec Vegas, ouais, pour, tu sais, 2016, 2017, ouais, 2018. À l'époque, on le savait pas. Mais aujourd'hui, on est en mai 2019. J'ai aucune espèce d'idée. Tu sais, il y a Seattle qui s'en vient. Va-t-il avoir, ouais, une expansion, un déménagement? Est-ce qu'on rêve en couleur? Ouais. Est-ce que dans 10 ans, on va se réveiller et il n'y aura rien qui va changer? C'est bien difficile à dire, mais c'est sûr que je pense que les gens sont beaucoup moins optimistes qu'on l'était il y a quelques années.
Un gros merci, François. Je te souhaite une belle saison des Capitales. T'as combienième? 16e?
17e.
Déjà 16 de fait. 17e, ça débute dans une semaine, jour pour jour, le 21 mai prochain.
Oui, puis j'invite les gens à venir au stade, puis les amateurs de ton émission de venir nous voir puis nous serrer la pince. Ça fait toujours un plaisir de rencontrer les gens au stade durant l'été.
Un gros merci à toi. C'est toujours le fun de se parler. Salut, François.
Salut, Dan. Merci.
Bye-bye. François Paquette, chroniqueur sportif et évidemment descripteur des matchs des Capitales. Il va amorcer bientôt une 17e saison dans ce rôle.
Pendant que les joueurs enfilent leurs patins, au FM 93, on donne tout un show. L'avant-match, lundi au vendredi, 18h, avec Dan Pou.
Des fois, un seul regard et c'est le coup de foudre. Mais il paraît qu'il faut pas se fier juste aux apparences. Faut voir aussi comment il se comporte dans le quotidien. Je peux vous dire qu'au premier coup d'œil, le CRV de l'Allier Sainte-Foy fait tout un effet, mais il est encore plus splendide à voir en action. Son agilité dans le trafic, sa robustesse en expédition de pêche, son élégance dans les grandes sorties. Bref, le CRV de l'Allier Sainte-Foy est pas juste parfait en toute occasion, il est aussi dans mon budget. En location jusqu'à 24 mois, au taux de 0,99%. Détail chez l'Allier Sainte-Foy.
Pourquoi autant de gens achètent un Arctic Spa? Constatez-le vous-même chez Club Spa. Ils sont les seuls à pouvoir être munis du système d'entretien de l'eau automatisé Spa Boy. Pour un temps limité, sur les Arctic Spa sélectionnés, c'est Club Spa qui paye les taxes. Club Spa à Beauport et l'Ancienne Lorette.
Vous envisagez une réorientation de carrière ou un retour aux études? Avec l'AEC, Assurance de dommages des particuliers et expertise en sinistre du Collège O'Sullivan de Québec, devenez un expert des produits de protection de biens et des dommages causés à autrui dans le secteur des particuliers. Une formation de 8 mois en ligne de soir, accessible aux prêts et bourses. Un taux de placement exceptionnel. Début des cours le 21 mai prochain. Faites vite, les places sont limitées. Avec le Collège O'Sullivan, préparez-vous à travailler.
Oui. Bonjour.
Bonjour, madame.
Bon, je veux le meilleur steak du IGA.
Ah, ben, c'est le bœuf Sterling Silver. Il est tellement tendre, on vous le garantit.
À ce point-là?
Ah, oui, c'est tendre, comme la promesse d'un amour naissant à l'aube d'un été que l'on souhaiterait éternel.
Ah, ouais?
Ah, oui, madame.
OK, ben, dis de même, mon cœur implore deux tibones.
Le bœuf Sterling Silver. Si tendre, on vous le garantit. IGA, vive la bouffe.
Si tendre. Chérie, pourquoi il y a 2 valises dans la chambre d'amis?
Hein? Ah, oh, c'est juste ma sœur. Avec sa rupture pis tout.
OK, OK. Puis les 2 valises dans le salon?
Oh, c'est ma petite cousine. Elle déménageait en ville.
OK, OK. Puis la grosse valise dans notre chambre?
Ouais, c'est ma mère. Elle sent bien seule ces temps-ci.
Ces temps-ci.
En ce moment, chez Vidéotron, regroupez vos forfaits mobiles sous un même toit et obtenez jusqu'à 40 gigs gratuits par mois. Des conditions s'appliquent. Vidéotron.
Quand on choisit de nouvelles lunettes, on choisit souvent la monture en premier. Mais qu'en est-il des lentilles? Après tout, ce sont elles qui nous permettent de mieux voir. Chez Iris, nous sommes fiers de travailler avec Nikon qui vous offre des lentilles de haute qualité offrant une performance visuelle supérieure. Jusqu'au 16 juin, économisez 100$ à l'achat d'une monture sélectionnée et de lentilles de prescription traitées anti-reflets et 125$ sur chaque paire de lunettes prescrites additionnelles. Alors, pourquoi pas une solaire? Visitez iris.ca pour planifier votre examen de la vue.
Chez Toyota, on comprend ceux qui manquent de timing.
Salut!
Hey, salut!
T'as passé un beau week-end?
Oui,
j'ai pris ça relax.
Toi?
Vas-y,
vas-y,
toi. Ben, je suis resté chez nous. Bon.
Ouais. Bonne journée.
À toi aussi.
À tous ceux qui manquent de timing, la vente étiquette rouge de Toyota, c'est là. Profitez-en pour louer la Prius Prime 2019 à partir de 73 $ par semaine, zéro comptant.
Inclus les rabais des programmes roulés verts et véhicules zéro émission jusqu'au 31 mai, 260 paiements sur 60 mois, dizaines de kilomètres après 100 000 km, prix suggéré de 35 234 $.
L'infolettre matinale Le Soleil, votre rendez-vous pour rester informé. Retrouvez le top 5, la caricature de côté, notre recommandation et les articles les plus populaires. Abonnez-vous à l'infolettre sur lesoleil.com.
Tu es un auditeur du FM 93. Tu veux surtout être un auditeur du FM 93 pendant la promotion Carrier chez Filtre Plus. Rencontre un conseiller et demande une soumission pour un climatiseur Carrier en inventaire. Après, tu dis que tu es un auditeur du FM 93 et boum, 100 $ de rabais. Pas plus compliqué que ça. Subvention Renault Climat de 650 $ et une remise postale de Carrier sur les thermopompes Energy Star. Financement disponible. En mai, c'est payant d'être un auditeur du FM 93 avec Carrier et Filtre Plus. À Québec et Shawinigan ou sur filtreplus.com.
Merci d'avoir appelé un 800 Got Junk. Je m'appelle Sarah. Comment puis-je vous aider?
Es-tu trop tard pour faire son ménage du printemps?
Il n'est jamais trop tard pour ça. Le printemps, c'est une question de feeling.
Une question de feeling?
Oui, un beau ciel bleu, des oiseaux qui chantent et les abeilles qui butinent de fleur en fleur, ce genre de feeling-là.
Ouais, ben, je le ressens pas, ce feeling-là.
Si vous le désirez, on peut amener le printemps chez vous.
Vous pouvez faire ça?
Faire disparaître les objets indésirables, c'est notre spécialité.
Wow, c'est génial. Quand est-ce que vous arrivez?
Appelez au 1-800 Got Junk.
Ou visitez 1-800-GotJunk.com.
Vous aussi, vous pourrez dire, j'ai une Honda grâce à Honda de Giraud. Le HR-V 2019 en location 24 mois à partir de 1,99%. Honda de Giraud, toujours ouvert le samedi.
FM 93. Le 93 pourrait faire de vous un gagnant.
Grâce au FM 93, faites un essai routier chez SM Sport et vous pourriez gagner tous les frais associés à votre moto pendant un an. L'immatriculation, les assurances, l'entretien, l'essence et même l'entreposage. Textez moto au 25226 et tout ce qui vous restera à faire, c'est de...
Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match avec Dan Pou.
OK, on est de retour dans l'avant-match. On va faire une entrevue qu'on n'a pas fait souvent dans les 10 ans de l'avant-match au cours des prochaines minutes. On va faire une entrevue en direct. Vous savez, mes collègues m'agacent souvent avec les entrevues préenregistrées. Il y a des raisons au pre-tape, hein? Il y a des raisons d'horaire des gens impliqués dans le monde du hockey à qui on veut parler sur l'heure du souper. Quand Will les appelle à midi moins quart ou bien à 11h20 le matin... La personne dit « Ouais, là, 3 enfants, les devoirs, il va avoir une pratique, il va avoir une game, pas évident. À quelle heure? Penses-tu qu'on peut se parler à 4h30 au lieu de se parler à 6h30? » Donc, et ça fait en sorte que à l'occasion, on doit préenregistrer des entrevues. Mais mon prochain invité se trouve à Bratislava, en Slovaquie, pour le championnat mondial de hockey. Il est 18h28, heure du Québec, rajouté 6h. Il est donc minuit 28 pour lui. C'est assez impressionnant, merci. Et on va rejoindre à l'instant un gars de Québec qui est entraîneur adjoint de l'équipe de la France au championnat mondial de hockey. Son équipe s'est d'ailleurs inclinée 4-1 cet après-midi contre l'Allemagne. C'est René Matt qui est au téléphone. Salut René!
Salut Dan!
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
D'abord, merci à minuit 30 à ton heure de prendre du temps pour me jaser. J'apprécie sincèrement.
Oui, pas de problème. Écoute, on rentre du match. Donc, après un match comme ça, il y a encore un peu d'adrénaline. Donc, on s'endort pas tout de suite. Fait que c'est pas un problème.
Ouais, mais quand même. Mais t'as raison, après un match de hockey, qu'on l'ait arbitré, coaché ou joué, c'est très rare qu'on tombe endormi une demi-heure après, hein?
Ouais, écoute, si on est bien concerné, si on est dans le match, on a la volonté de bien faire, habituellement, ça prend un peu plus de temps. Donc, là, tu vois, je suis en train de faire la vidéo, je suis en train de regarder les choses qu'on a bien fait, les choses qu'on a mal fait, puis on va faire un genre de debriefing demain matin avec les joueurs. Donc,
okay.
Ça fait partie de notre quotidien, de notre job après le match de faire ça.
Avant qu'on parle de l'équipe de la France, parle-moi de ton cheminement à toi. On s'est déjà parlé dans mon émission, c'est pas la première fois qu'on se parle, ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais comment t'es devenu entraîneur adjoint de l'équipe nationale de la France?
Ouf, écoute, bon, ben, ça fait déjà quand même 13 ans que je suis en Europe. Donc, oui. les 13 dernières années, j'ai coaché au niveau professionnel en Europe, en Liga, donc la meilleure ligue en Suisse pendant 10 ans à Fribourg. Puis après, bon, j'ai eu un petit temps d'une année et demie parce que j'avais pas de boulot, j'avais pas de job. Donc, j'ai fait un peu plus, j'ai fait de la télévision pendant une année et demie à télé nationale en Suisse. Et puis, depuis 2 ans, je vais débuter ma 3e année en Bri-Piatta. Donc, club en Liga aussi en Suisse. Et puis, pendant cette année et demie, 2 ans, là, que j'ai eu un peu de sans job, sans coacher, écoute, avec la télévision, tu crées des contacts. J'ai aussi donné des conférences dans des séminaires en France. Donc, je pense que c'est les premiers contacts que j'ai eu avec eux. Et puis après, écoute, comme tout le monde le sait, c'est un réseau de contacts. C'est vraiment là ton qui tu connais, les personnes que tu fréquentes. Et puis quand ils ont nommé Philippe Bozon au mois de juin l'année passée, à la fin mai, début juin, après le championnat du monde en 2018, ils ont nommé Bozon comme entraîneur-chef. Et puis Philippe, lui, avait l'intérêt à engager un entraîneur adjoint qui était hors France, un entraîneur adjoint étranger. Donc, puis écoute, c'est un des bons amis à mon frère. Donc, il a coaché avec lui dans le mouvement junior à Genève il y a quelques années. Et puis, c'est des bons potes. Et puis, par les relations que Louis avait avec Philippe, c'est arrivé à moi, là, parce qu'on m'a rencontré au cours de l'été passé. Et puis, on était capable d'arriver à un accord parce que ça me prenait quand même une libération de mon club en Bri-Piatta qui pouvait me libérer. Faut qu'il me libère 5 à 8 semaines dans l'année, donc c'est quand même beaucoup. Parce qu'il était en Suisse, au niveau de la Fédération internationale, il y a quand même des pauses olympiques, des pauses d'équipe nationale en décembre. Novembre, décembre et février, donc faut que le club soit d'accord de te libérer. Et puis après, il y a le championnat mondial avec le camp d'entraînement qui précède le championnat mondial.
OK, fort intéressant. Et là, tu te retrouves derrière le banc de l'équipe de la France comme entraîneur adjoint avec Philippe Bozon. Vous avez perdu contre l'Allemagne 4-1 aujourd'hui. Vous allez affronter l'équipe du Canada jeudi. Le championnat mondial, on l'a eu ici en 2008 pour le 400e de notre ville à Québec. C'est un gros événement. Est-ce que tu dirais qu'en Europe, comme ils sont habitués un peu plus que nous de l'avoir, c'est plus populaire là-bas que ça pourrait l'être. Mais malgré que ici, ça a été un vrai succès, là. Est-ce que les gens, c'est devenu une routine, le championnat mondial? Est-ce qu'il y a beaucoup de partisans?
Oui, mais écoute, c'est un peu la... On peut pas comparer ça à la Coupe Stanley, parce qu'à la Coupe Stanley, c'est complètement différent. C'est des playoffs, c'est plus long, c'est plus attractif pour les Nord-Américains, mais ici, c'est la coupe, c'est le championnat des meilleurs, des meilleurs pays, des meilleurs joueurs. Donc, c'est pour les Européens, c'est vraiment le summum, là. On sait que des fois, le Canada, les États-Unis ou les grosses nations qui ont des joueurs qui sont établis en NHL, c'est plus difficile de se rapporter à leur pays parce qu'il y a les playoffs. Mais pour les pays européens, c'est vraiment le championnat. C'est la fête du hockey. Il y a énormément de fans de partout dans le monde qui remplissent les gradins, et puis c'est le gros tournoi, c'est la fin de saison, donc c'est là qu'on voit les grosses nations qui amènent leurs gros armes, leurs gros shooters, gros joueurs qui fait la différence.
OK. Vous avez perdu aujourd'hui 4-1 contre l'Allemagne. Le premier match, vous l'aviez perdu de mémoire en tir de barrage. Oui. Qu'est-ce qu'on vous demande? Les dirigeants de l'équipe de la France, qu'est-ce qu'ils vous demandent exactement, là? Évidemment, ils vous disent pas aller chercher la médaille d'or, là.
Écoute, le problème des nations comme la France, parce qu'il y a moins de profondeur, moins de joueurs établis, tu sais, on est 13e au monde, on se bat entre la 12e et 14e.
Okay.
Donc, nous, ce qui est important, c'est qu'on soit quand même capable de gagner quelques matchs, d'éviter la relégation, et puis de chercher des points, parce que ça compte pour la qualification olympique qu'il va y avoir pour au mois d'août 2019 ou au mois d'août 2020. Donc, c'est d'essayer de se maintenir. Le premier mandat, c'est de se maintenir. Et puis, après, il faut regarder versus les joueurs qu'on a sous la main. Là, nous autres, présentement, on a un problème, c'est que nos 4 meilleurs joueurs ne se sont pas présentés à l'équipe nationale. Donc, on a 3 joueurs qui sont blessés. Et puis, un autre joueur qui voulait avoir une pause, on va prendre un break. Donc, nos 4 meilleurs, c'est 2 joueurs de la NHL, c'est 2 joueurs de la KHL en Russie. Donc, ça fait un gros trou dans notre alignement. Ça fait... ça paraît. Donc, les résultats sont peut-être... les demandes sont peut-être moins élevées cette année. Okay. On se doit quand même d'essayer de garder le maintien dans la grosse division mondiale. Là.
OK. C'est Alexandre Texier qui est le joueur des Blue Jackets. Ça se trouve être votre meilleur joueur. Est-ce que je déduis que c'est votre meilleur joueur parce qu'il joue en LNH ou il y a d'autres très bons joueurs dans votre équipe qu'on connaît moins?
Bon, écoute, on a quand même d'autres bons joueurs aussi, là. Bon, c'est sûr que Tessie, il va attirer un petit peu plus parce que, c'était un choix de Columbus. Il a fait sa saison en Finlande Il a joué toute la saison en Finlande, puis après, bon, il s'est rapporté au club de la Ligue américaine, il a été gradué en Ligue nationale. Donc, c'est sûr qu'il a beaucoup les regards, sauf qu'il est quand même seulement 18-19 ans. Donc, il y a encore un gros cheminement à faire de sa part. On a quand même des joueurs qui sont établis, on a des joueurs qui sont dans l'équipe nationale depuis 8-10 ans. Donc, c'est des joueurs qui sont beaucoup moins connus du côté nord-américain, sauf que c'est des joueurs qui ont joué à l'étranger, dans des championnats étrangers, qui ont performé et qui sont un peu les cadres de notre équipe. Là.
OK. Est-ce que je comprends? Tantôt, tu as parlé de qualification olympique. Est-ce que je comprends que oui. Si vous faites bien à ce tournoi-ci, tu pourrais peut-être te retrouver aux Jeux olympiques derrière le banc de la France?
Écoute, c'est du long terme, là. Ce qui est important pour nous, là, c'est cette année, d'avoir le maintien. On a un début de tournoi qui est quand même assez difficile. Et puis, comme je te dis, c'est qu'au mois d'août, l'année prochaine, ben, il va y avoir les qualifications olympiques. C'est-à-dire qu'il y a déjà 8 clubs. Les 8 premiers au classement mondial vont s'assurer de participer aux Olympiques. Et les 4 autres, c'est des tournois à l'interne. C'est-à-dire c'est des tournois contre d'autres nations qui sont positionnés entre 13 et 18, je me trompe pas. Donc, les 4 meilleurs de ces tournois-là vont avoir accès aux Olympiques. Donc, oui, il y aurait une possibilité. J'avais un contrat quand même de cette année, l'année prochaine, et puis après ça, bon, ça va avec le mandat que Philippe va avoir aussi. Okay. Sauf que lui, ben, son mandat aussi, ce serait d'essayer de qualifier cette équipe-là pour les de faire le tournoi olympique.
Ah oui. René, je suis convaincu que quand tu as coaché ton premier match avec les Saguenay-Chicoutimi, il y a plusieurs années, je suis convaincu que tu étais nerveux. Mais je suis convaincu qu'il y a un autre genre de nervosité. Mais jeudi, tu vas quand même affronter le Canada. C'est ton pays parce que tu es un gars de Québec. Tu vas affronter Alain Vigneault puis les meilleurs joueurs du Canada. Il doit avoir un petit stress, le fun.
Ben écoute, un petit stress, le fun, il va sûrement en avoir un. Il va sûrement en avoir un parce que c'est contre mon pays. Il y a quand même beaucoup de Québécois dans cette équipe cette année. Et sauf que, écoute, je l'ai vécu un peu il y a 2-3 semaines quand on a affronté les Suisses en match d'exhibition. Bon, j'ai eu la nationalité aux Suisses aussi après 13 ans, là, durant mon mariage aussi avec ma femme. Donc c'était drôle de me retrouver en arrière du banc de la France, jouer contre ton pays adoptif, ton pays où ça fait 13 ans que tu joues. Et puis, bon, on a perdu le premier match, mais on a eu le malheur des dates lors du deuxième. Donc, pour certains copains, ils sont des amis en Suisse, si on fait plaisir à me traiter un peu de traître ou de vouloir abaisser le pays, sauf que, bon, c'est nickel que d'autres choses. Mais c'était quand même spécial aussi de te retrouver en arrière du banc contre les Suisses, les joueurs que tu coaches contre ou les joueurs que j'avais dans mon équipe.
Ben oui.
Il y avait quand même 2 à 3 joueurs qui faisaient partie de l'équipe.
Est-ce que le déroulement d'un match au niveau international versus ce que toi tu vis dans ta ligue ou versus ce qu'un entraîneur-chef peut vivre dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, est-ce qu'en cours de match, les adjoints et les entraîneurs-chefs agissent à peu près de la même façon?
Ben, moi, je te dirais que oui. Puis en plus, bon, si je compare avec l'Europe comme nous en Suisse, on a encore plus d'impact dans le match, c'est qu'il y a les power breaks. Là, toujours 2 pauses. Il y a 3 pauses dans le match entre après les 4 premières minutes de jeu pour les commerciaux, les tout ce qui est sponsoring. Donc, on a quand même 3 pauses qui dans chaque période où on a 60 à 70 secondes de jeu. Donc, on revenait avec les mêmes trios, les ajustements au niveau des face-offs, du collectif, des tactiques. Donc, je pense que si je compare avec la Suisse, on a une incidence un peu plus dans le match qu'en Suisse, parce qu'en Suisse, ben il y a pas ces breaks-là. Donc, la game est quand même non-stop qui joue, à part les mises en jeu ou les arrêts de jeu qui sont peut-être un peu plus longs. On a moins d'incidence dans le match. Les ajustements vont se faire beaucoup plus entre les périodes, tandis que là, bon, on peut faire quand même des ajustements 3 fois dans la période.
OK. Est-ce que la meilleure équipe, c'est la Russie?
Ben écoute, sur le papier, je suis obligé de te dire oui, sauf qu'ils sont pas dans notre pool. Eux sont à Bratislava. Donc, je les ai vu jouer à télé hier contre la Tchéquie. Mais c'est sûr que quand on parle de talent, on parle d'Ovechkin, on parle de Malgin, ou Kovalchuk, nomme-les, là, sont tous là.
Ouais.
Donc, en termes de talent, c'est sûr et certain que c'est l'équipe du côté de Bratislava qui a beaucoup plus de talent. Ici, ben, du côté de Kozice, je te dirais que l'équipe qui a quand même le plus de talent, c'est quand même les États-Unis, là. Ils ont des joueurs, c'est incroyable.
Ouais.
Avec Kane, avec Debrinka, avec Hughes, le premier qui devrait être le premier choix. Je te dirais que de notre côté ici, il y a la Finlande et puis les États-Unis. Le Canada est peut-être moins nanti en termes de talent, sauf que le Canada, ben, sont très, très durs à jouer. Il y a énormément de talent aussi, sauf que peut-être moins de gros noms.
Excuse-moi, René, t'es là?
Ouais. Oui, oui.
OK,
oui.
Excuse-moi, ça a coupé. Tu disais qu'ils sont durs à jouer. Pourquoi ils sont durs à jouer, le Canada, particulièrement?
Bon, écoute, même s'il y a moins des gros noms que certains pays, c'est quand même des joueurs qui ont une expérience, des expériences internationales. Donc, okay. C'est des joueurs qui font pas beaucoup d'erreurs dans le match. Tu sais, je regarde le match hier, j'assistais au match contre la Slovaquie. La Slovaquie a un énorme début de match, met beaucoup de pression sur le Canada, prend les devants 2-0, la patinoire est en feu, tout le monde crie.
Ouais.
C'est la fête, tout le monde pense que la Slovaquie va s'en tirer en l'espace de 3 minutes. Ben, le Canada aura un power play, mettre ça 2-1.
C'est ça.
Fin de période 2-2. Donc, la Slovaquie joue probablement la période de sa vie.
Ouais.
Et puis, fini la période, ben, c'est quand même 2-2, puis le Canada est revenu dans le match. Donc, ouais. C'est des clubs qui ont énormément de talent. La moindre erreur que tu fais, ben, tu vas payer cash. Donc, faut toujours t'essayer de prendre le moins de risques possible pour vraiment les garder à l'extérieur. Et puis, sinon, ben, comme je te dis, tu payes cash aussitôt que tu fais une erreur.
Parfait. Ah, OK, là, je te laisse aller te coucher. Un gros merci de nous avoir parlé en direct. C'est très apprécié. Puis, bonne fin d'expérience. Savoure ça.
Merci, Dan. C'est gentil.
Salut, René. À bientôt. René Matt, un gars de Québec qui est entraîneur adjoint avec l'équipe nationale de la France en Slovaquie pour le championnat mondial de hockey.
Au FM 93. Ready? L'avant-match avec Dan Pou. L'avant-match est présenté par Pièces d'auto économique. Les mêmes grandes marques qu'ailleurs, mais toujours moins chères. Pièces d'auto économique, 4 magasins dans la région et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
La saison du homard est de retour chez IGA. Jusqu'à mercredi, les homards vivants fraîchement pêchés de 1 livre à 1 livre et quart sont à seulement 7,77 la livre. On peut aussi les cuire et les craquer pour vous. Demandez à votre poissonnier. IGA, vive la bouffe!
Il y a 20 ans, Kia Québec devenait le premier concessionnaire Kia d'une ville majeure au pays. Pour vous dire merci, Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair rachète votre bail et offre 1 000 $ en bonus célébration sur la Forte. Et la caméra de recul est incluse sur la Rio, ouvert le samedi.
Chez Golf La Binière, on a des promotions à jeter à terre. Profitez de notre...
Je pense qu'il n'est pas correct. Je vais le faire.
Cette année, nous célébrons en grand notre 40e anniversaire. Pour l'occasion, nous aurons une foule de promotions toute la saison. Pour vos tournois corporatifs, vos activités sociales ou vos réceptions, Golf Lobinière, c'est la place.
Oh, OK.
Golf Lobinière, c'est 27 roues de qualité professionnelle et accessible à tous. Saint-Gilles, sortie 305 de l'autoroute 20 à 15 minutes des ponts.
Les gens de l'atelier m'ont dit, on aimerait ça que tu parles de notre nouveau menu, on en est très fiers. Puis là, j'ai ça sous la main et je les comprends d'être fiers. Gravlax de truite au gin atelier, tartelette au canard confit, fettuccine au lapin braisé, le fameux contre-filet de bœuf. Si vous aimez les tartares, ben l'atelier, c'est le maître en la matière avec ses tartares de thon, de bœuf, de saumon, de bison. Et dans la portion Aujourd'hui on triche, les rondelles d'oignon à la bière et le fondant de bœuf au cheddar. Commencez à avoir faim? Allez essayer le nouveau menu du bistrot L'Atelier sur Grande Allée.
Yabadabadabadou, l'été s'en vient. Ah, mais vous portez des orthèses. Pas de problème, passez voir les orthésistes du Pied de Québec. Ils vont vous fabriquer des orthèses plantaires, incluant une sandale Mephisto. Et vous achetez du fabricant, donc c'est moins cher. Les orthésistes du Pied de Québec, 375 Soumande.
Le Salon Ross, spécialisé en santé des cheveux et en soins capillaires, recherche des coiffeurs et des coiffeuses. Le service client et les soins de beauté vous intéressent? Communiquez avec nous et joignez-vous à une équipe passionnée. Pour tous les détails, visitez salonross.com.
Chérie, pourquoi il y a 2 valises dans la chambre d'amis?
Hein? Ah, c'est juste ma sœur. Avec sa rupture pis tout.
OK, OK. Puis les 2 valises dans le salon?
Oh, c'est ma petite cousine. Elle déménageait en ville.
OK, OK. Puis la grosse valise dans notre chambre?
Ouais, c'est ma mère. Elle sent bien seule ces temps-ci.
Ces temps-ci.
En ce moment, chez Vidéotron, regroupez vos forfaits mobiles sous un même toit et obtenez jusqu'à 40 gigs gratuits par mois. Des conditions s'appliquent. Vidéotron.
Chez Laurier Mazda, on vend des Mazda. C'est pour ça que ça s'appelle pas Laurier Barbecue ou Laurier Salon de Massage.
Mais pourquoi ça s'appelle Laurier?
Ah! Ça, je ne sais pas. Bref, on loue une Mazda 3 2019 pour seulement 70 $ par semaine, sans aucun comptant.
Mais pourquoi ça s'appelle Laurier?
Je le sais pas. Bon, c'est à côté du Costco à Sainte-Foy et vous savez...
Mais pourquoi ça s'appelle Laurier? Allô? Allô?
Ça cartonne!
Vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts? Mallette, syndic autorisé en insolvabilité. Prenez rendez-vous sans frais avec l'un de nos experts à LLTT.ca pour y voir clair. Mallette, Avec vous, là où ça compte.
Ce qu'on entend quand on mange du homard.
C'est quoi cette pince-là?
Attention, là, t'en mets partout.
Aïe, je le sais, Julie, là. Ce qu'on entend quand on mange du homard cuit et craqué de chez IGA.
Ça se mange du seul, ça?
Ah oui, les pinces.
Et les pinces, hein?
Oh, que c'est bon.
IGA. Vive la bouffe!
Vous avez été victime de la crue printanière? Le gouvernement est mobilisé pour vous aider. Afin de connaître les ressources disponibles pour un retour rapide à la normale, rendez-vous à urgencequebec.gouv.qc.ca/inondation. Un message du gouvernement du Québec.
Il fallait partir le feu de camp. Il restait juste une allumette. Il a commencé à pleuvoir et là...
Ça, c'est juste 20 % de l'histoire. Parce que dès mercredi, Sale vous offre minimum 20 % de rabais sur une sélection d'articles nautiques, de camping et de pêche. Toute bonne histoire commence chez Sale. Tous les détails à sale.ca.
Où est-ce que vous allez trouver le plus grand choix de vinyle Klink à partir de 1,99 $ le pied carré? À Québec, Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre Bertrand.
C'est la référence sportive à Québec. Au FM 93.
Et pas pour cash, il a ses comptes! Il a ses comptes!
Ça a déjà été beaucoup plus élaboré que ça. Ça a déjà été, il a ses comptes! Au tout début, c'était plus élaboré que ça.
Ça va donc, il a ses comptes!
Vous pensez que mon prochain invité est un chanteur? Pas du tout. Il est descripteur des matchs des Huskies de Rouyn-Noranda. C'est Jean-Paul Charlebois qu'on joint à l'instant au téléphone. Salut Jean-Paul!
Bonjour!
Comment ça va?
Ça va. La voix est fatiguée un peu, mais ça va.
La voix est fatiguée, mais ça, c'est le lot d'un descripteur qui décrit les matchs d'une très bonne équipe, d'avoir la voix fatiguée.
Effectivement, c'est tout à fait juste.
OK. Comment ça s'est passé la saison? C'est une année de rêve, évidemment, pour les Huskies. Il y a eu des ajouts en cours de route, je pense à Teasdale et à Dobson. Est-ce que à chaque fois que tu t'installais pour décrire un match, tu avais l'impression que les Huskies allaient gagner? Il y a eu une séquence de 24 ou 25 matchs gagnés de suite?
Disons qu'en début de saison... Je m'attendais à ce qu'on ait une bonne équipe, là, peut-être au moins dans les cinq premières de la Ligue, okay. Mais pas à ce point-là. Honnêtement, là, à mesure que la saison avançait, je regardais ça aller, puis ça commençait à ressembler de plus en plus à notre saison de 2016. Surtout l'ambiance, l'atmosphère qu'il y avait, la chimie d'équipe qu'il y avait dans l'équipe, les gars, ça ressemblait beaucoup à 2016. Puis plus ça allait, plus je me disais, bien, coudonc, c'est vrai, là. C'est de plus en plus vrai. Puis, effectivement, en dernier, là, ben, je pense que on s'attendait de gagner tous les soirs, là.
Jean-Paul, est-ce que tu as l'impression que l'édition de cette année des Huskies, c'est la meilleure de l'histoire des Huskies?
Tout à fait. Je pense qu'on peut dire ça maintenant, là. Ben, évidemment, si on gagnait la Coupe Mémorial, ça serait encore plus vrai, là. Mais même sans qu'on gagne la Coupe Mémorial, quand on regarde les accomplissements de cette équipe-là cette année, 119 points, qui est troisième plus haut total dans l'histoire de la Ligue, avec Saint John, 59 victoires, un nouveau record dans la Ligue, la Coupe du Président, enfin, on peut nommer 25 victoires consécutives, un nouveau record égalisé, oui, définitivement. En fait, un autre record qu'on a établi, c'est-à-dire le nombre de buts accordés, 138 buts accordés.
Okay.
Je pense qu'on peut dire ça, oui.
OK. Est-ce que il y a plusieurs bons joueurs, évidemment, je veux pas qu'on passe un par un tous les joueurs de l'équipe, mais est-ce que tu as l'impression qu'au fil des ans, et ça, je pense qu'il faut rendre hommage à André Tourigny, as-tu l'impression qu'au fil des ans, cette organisation-là est devenue crédible parce qu'on a fait passer sincèrement le logo de l'équipe avant le succès des joueurs au niveau individuel?
Ben, je pense que oui. Je pense que nos deux pistes s'appliquent à recruter des joueurs qui ont du talent, mais qui sont aussi des bonnes personnes. Fait que c'est ce qu'on garde beaucoup, c'est des gens qui ont leur équipe à cœur d'abord, et puis on met beaucoup l'accent là-dessus, donc des jeunes qu'on est en mesure de développer, quoi. Alors je pense que c'est là-dessus qu'on a mis l'accent depuis plusieurs années, depuis qu'André est là, et je pense que ça donne ce résultat-là. Quand on regarde au sein de l'équipe cette année, on a quoi? 20 joueurs sur 23 qui ont été repêchés par nous et développés par nous. Ces jeunes-là sont ensemble depuis 2-3 ans, puis ils se connaissent bien, puis je pense que c'est ça qui est la recette du succès des Huskies.
Jean-Paul, quand en 2016, vous avez perdu en grande finale contre les Knights de London à la Coupe Memorial, le lendemain matin, si je t'avais appelé sur ton cell à 10h puis je t'avais dit en 2019, la Coupe va être Halifax, puis les Huskies vont y retourner, tu m'aurais dit prendre grande gorgée?
Oui, une grande, grande gorgée. Effectivement, je l'aurais pas cru. Écoute, c'est assez extraordinaire de revivre ça là, 3 ans après. Là, c'est, des fois, je me pince pour me dire que c'est vrai. Là, puis, c'est inimaginable. Là, disons, 3 ans, les cycles de hockey, quand même, aux juniors, on le sait, sont souvent pas mal plus longs que ça. Là, mais on va le prendre, ça passe.
Hey, parle-moi de l'accueil un peu que vous avez reçu en arrivant en Abitibi après la victoire de samedi. Moi, quand j'étais TQ, je me souviens que les partisans des Nordiques allaient à l'aéroport pour accueillir les joueurs des Nordiques quand ils venaient de gagner une série contre Hartford. Puis c'était la folie furieuse à Québec. Évidemment, à Rouen, là, les Huskies, c'est pas mal la ville. Ça, c'était aux petites heures du matin, là.
Ben non, c'est en fait, on devait arriver vers 10h15, 22h15, okay. Samedi. Puis finalement, on est arrivé un peu plus tard, une heure plus tard, 23h15.
Okay. Donc,
c'est un heure quand même, un samedi soir, là, les gens sont debout, là.
Ouais.
Et puis, il y avait, je sais pas, on estimait ça à combien de personnes, je sais pas, entre 500 et 800 personnes certaines, là. L'aéroport là, était plein, puis il y en avait dehors. C'était vraiment incroyable, là. On était accueillis, les gens chantaient, et puis criaient go, ski go, et ça démordait pas. C'était vraiment, un accueil ahurissant.
Tantôt, tu me disais que l'édition de cette année, c'est peut-être assurément à tes yeux la meilleure de l'histoire, mais est-ce que l'intérêt dans la ville pour son équipe préférée, l'intérêt, est-ce qu'il est plus grand maintenant qu'en 2016?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il l'est. L'intérêt, il l'est depuis 2016.
OK.
Depuis 2016, ça a pas dérougi, disons, année après année. Là, en 2016-2017, en réalité, je peux te dire qu'on avait l'équipe pour gagner la Coupe Mémorial.
Oui.
On a perdu cette année-là en deuxième ronde des séries au 7e match en supplémentaire contre Chicoutimi. Mais selon moi, on avait l'équipe pour gagner la Coupe Mémorial parce qu'on avait plusieurs éléments de l'année précédente. Puis, tu avais, par exemple, à la défensive, tu avais des gars comme Philippe Myers et Jérémy Lauzon qui étaient avec l'équipe Canada Junior cette année-là.
Oui.
Mais la volonté de gagner puis la chimie d'équipe n'était pas aussi forte.
OK. Est-ce que tu étais dans le fameux avion où les deux équipes étaient ensemble pour revenir en Abitibi?
Oui, deux fois. Pour venir en Abitibi puis retourner à Halifax, deux fois.
Conte-moi ça. Comment ça s'est passé? Là? Parce que sur la glace, les gars se donnent du coude un peu. Dans l'avion, là, tu me diras pas que ça jouait aux jeux vidéo en réseau, là?
Non. Non, en fait, c'était bien planifié de la part de la Ligue. Là. D'abord, là, il y a une équipe qui entrait, qui s'installait. Ensuite, dans le milieu de l'avion, il y avait l'état-major de la Ligue. M. Courteau était là dans un des voyages avec M. Le Duc, directeur des opérations hockey. Les employés de la Ligue, les journalistes étaient là dans le milieu. Puis après ça, l'autre équipe embarquait.
OK.
Les gars embarquaient, ils ne regardaient même pas en arrière de l'avion. Là. Ils ne regardaient même pas. C'était comme s'ils embarquaient sur un vol commercial puis ils ne connaissaient pas personne.
OK. OK, parfait. À quel moment cette semaine l'équipe quitte pour la Coupe Memorial?
Demain matin, 10h. Pardon.
Demain matin, 10h, c'est le départ.
Oui.
Puis comment l'équipe vit ça? Là? Mario Pouliot pourrait gagner deux Coupes Memorial de suite avec deux clubs différents. C'est quand même pas rien. Là.
Ah non, c'est extraordinaire. Là. Comment l'équipe vit ça? Je te dirais que, en fait, ça va peut-être paraître un cliché là, parce que c'est ça que Mario a dit toute la saison. Puis les joueurs, quand on faisait des entrevues avec les joueurs, c'est ce qu'on se faisait dire. Oh, on vit ça au moment présent.
On ne le croit pas, ça.
Ouais, non, hein, tu ne crois pas. Mais moi aussi, ben, des fois, je ne le connais pas, mais il m'a dit, je commence à y croire. Parce que
okay.
À les côtoyer, ces gars-là, je les vois agir, je les vois faire. Puis je pense qu'ils vivent vraiment comme ça. Pas toujours, là. Comme dans la série contre Halifax, je pense que le 4e match, ils l'ont échappé parce qu'ils pensaient déjà au 5e match. Là.
OK.
Mais je pense, effectivement, là, ça a l'air cliché, mais je commence à croire que ce gars-là, c'est vrai. Il applique ça au quotidien.
Parfait. Bon, on va les suivre de près, évidemment, pour la Coupe Mémorial. Ça débute vendredi. Un gros merci de nous avoir parlé, Jean-Paul. Très apprécié.
Ça m'a fait plaisir.
Okay.
Merci.
Bonne Coupe Mémorial. Jean-Paul Charlebois, descripteur des matchs des Huskies. La Coupe Mémorial débute vendredi à Halifax. Prince Albert, Guelph, Rouyn-Noranda et les Mooseheads vont rivaliser pour l'emporter cette année. C'est tout pour l'avant-match de ce soir. Je vous dis bonsoir. Merci.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93. Ça me parle.
L'avant-match est présenté par Pièces d'auto économique. Les mêmes grandes marques qu'ailleurs, mais toujours moins chères. Pièces d'auto économique, 4 magasins dans la région et une boutique